L'homme est fait pour la vérité. Et il en a un tel besoin qu'il ne peut être trompé que par ce qui en a l'apparence. Semper spitz recti decipimur, dit le poète, nous sommes toujours trompés par l'apparence du bien. Si je devais donner un titre à ce texte que nous avons déjà lu, je crois que ce serait un bon candidat. Nous sommes trompés par l'apparence du bien. Mais plaçons ce texte un peu dans son contexte. Nous avons déjà étudié les chapitres précédents de l'évangile de Jean. Et on se rend compte, en lisant cet évangile, que ce chapitre, le chapitre 12, est un chapitre de transition. Les chapitres précédents nous racontent le ministère public de Jésus, les débats qu'il a avec la foule, ces débats qui s'enveniment de plus en plus. Il y a une hostilité grandissante qu'il rencontre. Et au chapitre 11, nous avons vu ensemble la résurrection de Lazare, le dernier grand miracle, et miracle de grand éclat, et le miracle qui a décidé de manière ferme les plus hautes instances religieuses du judaïsme ancien d'en finir avec Jésus. Jésus, par la suite, se retire quelque peu de la scène publique, il se fait plus discret. Au chapitre 12, nous avons encore quelques événements au grand public, l'entrée triomphale dans la ville de Jérusalem. Mais les derniers chapitres qui précèdent la passion proprement dite ont un ton plus intimiste. C'est plus des discussions que Jésus a avec ses disciples les plus proches pour les préparer à ce qui va venir. Il y a un tout autre ton qui règne dans ces chapitres-là. Mais ce chapitre-là, le chapitre 12, est donc une charnière, une transition entre ces deux types de textes. Et il nous raconte des choses fort intéressantes. En l'occurrence, nous sommes en Béthanie. Donc nous avons appris que Jésus s'est retiré dans la banlieue proche de Jérusalem, où il a des amis. Et c'est là qu'il avait accompli ce miracle magnifique de la résurrection de Lazare. Et il se retrouve là de nouveau dans cette ville, à Béthanie, et en donne en son honneur un repas. Alors, ce repas nous est raconté dans 3 des 4 évangiles, ce qui est en général signe qu'on a là affaire à quelque chose d'important. C'est Matthieu et Marc qui le racontent aussi. Luc a un texte qui ressemble un peu, mais quand on le regarde de près, je crois qu'on peut conclure que ce n'est pas la même chose. En tout cas, il est là, ce repas est donné en son honneur, et on rencontre d'autres amis qu'on connaît déjà. Premièrement, nous apprenons que Lazare lui-même est présent, plutôt en tant qu'invité, et dans les évangiles de Marc et de Matthieu, nous apprenons effectivement que ça se passe dans la maison d'un certain Simon le lépreux. On ne sait pas quel est son lien avec ses protagonistes, mais nous savons qu'ils sont là, Lazare est là, Marthe est là, hein, elle comme toujours à l'œuvre, hein, elle travaille, elle s'occupe des tables, elle ne peut pas faire autrement, c'est son truc. Hein. Et puis il y a aussi Marie. Et contrairement à la résurrection de Lazare où Marthe était le personnage de premier plan, ici c'est Marie qui va attirer l'attention. Et même d'une manière assez surprenante. Marie se pointe. Elle se pointe, mais elle ne vient pas les mains vides. Elle se pointe avec un récipient, un flacon, pourrait-on dire. C'est un gros flacon parce qu'il contient 1 livre de parfum. 1 livre, dans nos poids et mesures, ça vaut à peu près 330 grammes, 1/3 d'1 kilo. Donc c'est quand même assez conséquent. Et on nous dit aussi que dans ce récipient, il y a du parfum, mais pas n'importe quel parfum. Il y a un parfum de nard pur, de grand prix. Et nous avons la chance d'avoir en plus l'évaluation du prix par un spécialiste de l'argent, hein, le trésorier, Et là, et il évalue le prix de ce parfum à 300 deniers. Alors, je ne sais pas si ça vous parle comme ça, mais on sait par ailleurs qu'un denier, c'est ce que gagnait un ouvrier dans une journée de travail. 300 deniers, si vous déduisez les Shabbats, ça vous fait une année de travail. Donc, on a ici un parfum dans la gamme de prix d'environ 20 000 euros. Dans nos prix. Un prix complètement exorbitant. Vous avez là un parfum rarissime, extrêmement cher. On ne sait pas comment Marie a eu possession de ce parfum. On ne connaît pas l'histoire de ce parfum. C'est étonnant qu'elle ait ça. Est-ce qu'elle est d'une famille très aisée? C'est possible. On ne le sait pas. Il y a des gens qui ont pensé qu'il s'agissait là peut-être de son fonds de pension. Ses économies, c'est possible, mais on n'a pas les détails. En tout cas, elle vient avec ce parfum et elle va faire quelque chose d'assez étonnant parce qu'elle va consommer ce parfum pour oindre Jésus, pour répandre du parfum sur son corps. Donc, je ne suis pas un spécialiste de ces choses, mais plusieurs commentaires signalent que dans le récit de Marc et de Matthieu, elle brise ce flacon, ce qui apparemment voulait dire qu'elle le consommait tout entièrement. C'est-à-dire, on les brisait si on voulait vraiment faire sortir même le petit reste, le fond. Elle a complètement utilisé ce parfum sur Jésus. En ce jour-là, elle a claqué 20 000 euros à peu près en parfum. Ça, c'est déjà un peu étonnant, il faut le dire. Et puis, ça devient de plus en plus fort. Parce que qu'est-ce qu'elle fait avec ce parfum? Jean nous dit que, en une phrase, il dit quelque chose qui devait faire frissonner beaucoup de monde à l'époque. Elle oignit les pieds de Jésus. Alors, c'était concevable dans une assemblée solennelle comme celle-ci, ou festive, un repas de ce genre, c'était concevable que le hôte, pour honorer un invité de marque, pour vraiment l'honorer particulièrement, qu'il répande un petit peu de parfum sur sa tête. Mais les pieds, ça ne va pas du tout. Vous savez, on est dans une société où on se déplace essentiellement à pied. Et Dieu sait que c'est un pays poussiéreux. Les pieds, c'est sale. Et on ne touche pas aux pieds. Eric l'a déjà dit tout à l'heure, laver les pieds, enfin, tous ceux ici qui n'ont jamais entendu dans leur vie un sermon sur le début du chapitre 13 de Jean, où Jésus lave les pieds de ses disciples, ils savent que c'est quelque chose de très, très abaissant, que de devoir s'occuper des pieds d'autrui dans cette culture. On le confiait aux esclaves, mais même pas à n'importe quel esclave. C'était vraiment les moindres des esclaves à qui on confiait cette tâche tout à fait dégradante et humiliante. Mais ici, vous avez Marie qui vient avec ce parfum à un prix phénoménal et elle oint les pieds de Jésus. Alors, nous savons par ailleurs de Matthieu et de Marc qu'elle n'a pas oint que les pieds. Elle a sans doute aussi oint sa tête et peut-être encore d'autres parties de son corps, mais Jean attire ici notre attention sur les pieds. Elle fait quelque chose d'assez inconcevable. Et puis, ce n'est pas encore tout. Parce que dans cette phrase, il y a encore une troisième bombe. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle oignit les pieds de Jésus et elle les essuya avec ses cheveux. Alors là encore, nous sommes un peu loin de tout ça pour mesurer ce que ça veut dire. Mais c'est profondément choquant, ce qu'elle fait là. C'est profondément choquant. Nous avons la chance d'avoir des textes qui se rapportent à peu près à la même époque du judaïsme. Ces textes sont connus sous le nom du Talmud. C'est un commentaire rabbinique, pourrait-on dire. Et nous avons notamment deux textes dans le Talmud qui nous parlent des cheveux et qui nous permettent de mesurer ce qui se passe ici. Les cheveux, pour les rabbins, il y a un texte qui nous dit que les cheveux, c'est nudité. Alors, ça ne vous parle peut-être pas comme ça, mais ça veut dire que les cheveux d'une femme, c'est associé à sa sexualité. Montrer ses cheveux, c'est vraiment entrer dans la plus grande intimité. C'était réservé au mari, éventuellement, mais on ne montre pas ses cheveux dans la société. Vous avez une certaine parenté de pensée entre le judaïsme de l'époque et ce que vous pouvez voir éventuellement aujourd'hui dans certains cercles extrémistes musulmans, où on essaie aussi de cacher les femmes et les cheveux. Ces gens-là sont toujours un peu intrigués par les cheveux, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, on avait cette notion que les cheveux, c'était vraiment très intime. Et se défaire les cheveux en public, ça n'allait pas du tout. Et nous avons un deuxième texte dans le Talmud qui vous permet de mesurer que ce n'est pas du pipeau. C'est un texte qui parle de divorce. Vous savez, dans le judaïsme, le divorce était relativement facile. Il suffisait que l'homme soit offensé par quelque chose, il donne une lettre de divorce à sa femme et c'est fait. Mais il fallait qu'il paye une compensation. Il donne une certaine somme. Or, le Talmud nous apprend quelques situations dans lesquelles l'homme est en quelque sorte libéré de cette obligation de compensation. Et un des cas de figure expressément prévu, c'était que sa femme sorte avec les cheveux défaits. Ça vous donne une idée de la nature choquante, en fait, de la démarche de Marie. Elle vient, elle claque son parfum d'un prix inestimable, et après, elle se défait les cheveux pour, sans doute, enlever le surplus des pieds de Jésus. Nous sommes là en présence d'une scène, pour les gens de l'époque, profondément, profondément choquante. Et plusieurs sont irrités. Et on le voit ici, dans ce texte, c'est Judas qui se fait le porte-parole. Nous savons aussi, si vous lisez les textes parallèles de Matthieu et de Marc, que d'autres disciples et d'autres convives étaient aussi offensés, et ce n'est pas surprenant. Et qu'est-ce qu'il dit, Judas ? Il dit, quel gaspillage ! Quel gaspillage ! Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? 20 000 euros, là, vous pouvez faire des choses dans le domaine social. On aurait pu vendre ce parfum, et on aurait pu donner la somme obtenue aux pauvres, et ça aurait été drôlement mieux investi que de faire ça, ce geste incompréhensible. C'est faire le compte sans le patron. Parce que Jésus va réagir, et il va réagir d'une manière assez vive. Et c'est très intéressant de voir comment il réagit. Alors il dit, laisse-la. Fous-lui la paix. Laisse-la tranquille. Dans le texte de Matthieu et de Marc, nous avons encore d'autres détails sur ces paroles. Il dit, pourquoi tracassez-vous cette femme ? Elle a accompli une belle œuvre à mon égard. Donc Jésus réagit assez vivement à cela et il ajoute encore, laisse-la afin qu'elle garde cela pour le jour de ce monde. De mon ensevelissement. Donc Jésus associe ce qui vient de se passer avec sa mort. Et nous allons revenir sur ce point parce que c'est fort intéressant. Et il dit encore, car les pauvres, vous serez toujours avec vous, mais moi, vous ne mourrez pas toujours. Ça paraît un peu... Il n'a pas une petite idée de lui-même, on dirait. Et puis, il dit encore... Et c'est sur cette parole-là que se termine le récit de Marc et aussi de Matthieu. Il dit, Amen, je vous le dis. Et ça, c'est toujours quand Jésus dit quelque chose de très important. Il dit ça. Amen, je vous le dis. Ou en vérité, je vous le dis, comme vous préférez. Partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Donc, nous avons là une offrande qu'on pourrait qualifier d'un petit peu extrême, peut-être exagérée, et une réponse de Jésus qui semble aussi attribuer une importance presque un peu exagérée à ça. Je veux dire, il dit, partout où l'évangile sera annoncé, on parlera d'elle. Ça paraît disproportionné aussi. Mais c'est vrai. Et elle a trouvé sa place dans 3 des 4 évangiles, et ce matin même, je vous en parle encore de ce qu'elle a fait. Donc, cette prophétie de Jésus s'est réalisée et continuera sans doute encore à se réaliser s'il ne revient pas très bientôt. Je voudrais vous faire part de trois observations concernant ce texte. La première observation, c'est qu'il me semble que ce texte est précieux parce qu'il nous permet de... Il nous ouvre une petite fenêtre dans la vie intérieure de Jésus. Vous avez de temps en temps ce genre de texte qui vous permet de saisir ce qu'il a vécu. Parce que Jésus est un homme très remarquable, un peu à part, il est vrai, et c'est précieux de voir ce qu'il a pu vivre dans son, comme émotion et comme pensée. Et il me semble que ce texte fait partie de cela qui nous éclaire un peu là-dessus. Parce que, voyez-vous, nous sommes là en train d'assister à un repas. Et c'est a priori festif. Hein, on est content, on partage un bon repas, c'est agréable. Hein. Et puis vient cette femme qui lui fait une onction de parfum. Hein, et toute la maison est remplie du parfum. Tout ça, c'est plutôt positif. Hein. Ces onctions, je vous l'ai dit, c'était plutôt quelque chose pour honorer un invité. Et plus généralement, les onctions, c'était toujours une occasion de joie. C'était, par exemple, l'onction d'un roi ou d'un prophète ou que sais-je, ou d'un prêtre. Hein. Je veux dire, ce sont de grandes occasions. Ce sont des occasions de joie et de réjouissance. Et Jésus réagit à ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il parle tout de suite de sa mort. Et rien dans ce qui précède nous prépare à ça. Mais Jésus, il est dans un état d'esprit où cet acte le renvoie tout de suite à sa mort. Et je crois que vous avez là l'expression de ce que Jésus vivait dans ces quelques jours qui précédaient sa mort. Nous voyons ici que ça se passe 6 jours avant la Pâque. Hein? Et vous le savez sans doute, à la Pâque, Jésus était déjà mort et enterré. Donc, il vit là sa dernière semaine. Et il y est déjà. Il est déjà dans sa mort. Il lutte déjà avec ça. Il travaille, ça le travaille profondément. Il médite sans doute ça. Il est temps. Il est entré dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que sa mort jette déjà son ombre. Et quand il a cette onction, Jésus l'associe à sa mort, parce qu'il y est déjà. Et c'est là, je crois, et c'est ma deuxième observation, c'est là que ce texte tire toute sa puissance. Mettez-vous un peu dans la peau de Jésus. Jésus, il est venu dans ce monde pour accomplir cette œuvre, pour mourir à notre place, pour porter cette punition qui devait nous frapper, pour nous racheter notre liberté. Il est venu pour ça. C'était sa mission, choisie, confiée par le Père et volontairement choisie par lui. Et il est entouré de gens. Il a choisi des gens. Et il a fait du chemin avec eux. Pendant près de 3 ans, il les a eus autour de lui. Et pourtant, quand vous regardez, ces gens-là, ils n'ont rien compris. Et ils se disputent tout le temps autour des choses comme qui est le plus grand et qui sera assis à droite, à la gauche. Ils n'y sont pas. Ils n'ont rien pigé. Et quand il les prépare, parce que de temps en temps, il leur dit, je vais devoir mourir. Hein? Il y a des choses dures qui vont arriver. Hein? Quand il parle de ça, ils ne peuvent pas le saisir. Hein? Ils ne veulent pas entendre ça. Et Simon-Pierre, lui-même... Il va jusqu'au point de dire à Jésus que jamais ça se produise. Et il se fait reprendre d'une manière très sévère par Jésus, vous le savez. Jésus l'appelle même Satan. Hein, parce qu'il met en cause le cœur même de sa mission. Hein, c'est totalement inacceptable. Mais vous voyez là à quel point Jésus devait être seul. Et j'imagine que ça devait lui peser d'être constamment entouré par des gens qui n'arrive pas à s'inscrire dans sa mission-là et qui même le freine et s'oppose à ce qu'il fait. Mais là, voyez-vous, là se passe quelque chose de différent. Vous avez là un acte, une femme qui vient et qui est loin. Et quand elle fait ça, Jésus comprend qu'elle est en train de le préparer pour sa mort. Et c'est enfin quelqu'un qui s'inscrit dans sa mission à lui. C'est enfin quelqu'un qui l'aide à se préparer à ce jour-là. Pour une fois, il n'est pas à lutter contre, mais pour une fois, c'est quelqu'un qui lui donne tout ce qu'il a et l'encourage. Et je crois que c'est là la grandeur de cette femme. C'est là un clin d'œil de Dieu pour Jésus. C'est extrêmement rare dans ce ministère qu'il a quelqu'un qui l'aide. Et je crois que c'est pour ça que Jésus réagit aussi vivement. Et tout prend sens à ce moment-là. Voyez-vous, il dit, il a gardé ça pour le jour de mon ensevelissement. Elle me renvoie vers ma mort. Car les pauvres, vous aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Voyez-vous, si vous comprenez que ce que Jésus est en train de faire, c'est sans doute la chose la plus importante qui s'est jamais passée sur ce monde. Hein? Il est là pour nous sauver, pour apporter le salut à des millions, peut-être des milliards de personnes. Les pauvres, certes, c'est important. Et ces 20 000 euros auraient sans doute permis de soulager pas mal de maux. Mais là, vous avez quelqu'un qui aide le Seigneur à accomplir cette œuvre immense. Et qu'est-ce que c'est 20 000 euros ? C'est sans importance. Aurait-on pu mieux les investir ? Je ne pense pas. Et puis vous comprenez peut-être aussi pourquoi Jésus maintenant associe cette femme, comme je vous l'ai lu dans l'évangile de Matthieu, à l'évangile. Je vous le dis, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ben oui, parce que c'était la seule à, pendant cette période-là, à l'aider. C'était la seule qui était vraiment un soutien pour lui, qui l'a encouragé dans cette œuvre. Donc ça fait sens. Hein? Elle était une précieuse collaboratrice dans les événements précédant la Passion, et à ce titre-là, il mérite amplement d'être rappelé. La troisième observation que je voudrais faire, elle nous ramène un peu vers nous-mêmes. Je pense que ce texte peut nous servir d'avertissement. Notamment par rapport au jugement que nous pouvons porter sur autrui et l'expression de la piété d'autrui. Parce que vous voyez, il y a deux personnes qui ressortent dans ce récit. Le premier personnage, c'est bien sûr Marie, qui fait quelque chose qui, à première vue, en tout cas, paraît exorbitant, peut-être même choquant, peut-être déplacé. Et il a mis mal à l'aise pas mal de convives, apparemment. Et de l'autre côté, vous avez Judas. Et le contraste est saisissant entre ces deux-là. Elle, c'est une femme. Déjà, ça vaut moins. Hein? Dans cette société. Hein? Elle fait un truc incompréhensible. Et puis, elle ajoute l'indécence à la folie. C'est vraiment, si vous voulez avoir tout faux, faites comme elle. Et vous avez Judas, qui est un homme, pas n'importe quel homme, c'est un apôtre, un des 12 choisis par Jésus. Et non, il n'est pas n'importe quel apôtre, c'est en plus l'apôtre trésorier. Et lui, il dit, c'est de la folie, c'est du gaspillage. Et il a en plus la raison pour lui. Bien sûr, c'est gaspiller 20 000 euros en parfum, hein, pour remplir une fois la maison d'odeur. Et puis, hein. Et pourtant, quand on regarde de près, eh ben c'est elle qui a vu juste. elle se trouve approuvée par le Seigneur, et non seulement approuvée, elle est inscrite dans la Bible, et tous les évangiles, sauf un, parlent d'elle, et on ne l'a pas oubliée. Et Judas, eh bien Judas, vous savez ce qu'il est devenu. C'était lui qui a trahi le Seigneur pour 30 pièces d'argent. Et s'il y a un personnage tragique dans l'Écriture, c'est lui. Donc, à première vue, il a tout bon, mais il a tout faux. Et que vous regardez de près, c'est tout l'inverse. C'est elle qui avait raison et lui avait tort. Et c'est pour ça que je dis, soyons prudents. Soyons prudents dans nos jugements. Notamment face à des expressions de piété qui peuvent nous mettre mal à l'aise. Parce que nous ne savons pas ce qui se passe dans les cœurs. Et nous ne connaissons pas toutes choses. Et je vais vous donner un exemple qui parle de moi, hein, mais c'est ce que je connais de mieux. Moi, si vous me connaissez, beaucoup d'entre vous, on ne se connaît pas très bien, mais si vous me connaissez, vous savez que je suis plutôt le chrétien du type cérébral. J'aime bien la théologie, j'aime bien réfléchir, j'aime bien sonder les Écritures, j'aime bien les choses carrées, j'aime bien les choses sobres, j'aime bien le culte sobre, ordonné. C'est comme ça, je suis comme ça. C'est pas bien ou pas bien, mais c'est comme ça. Vous me mettez dans un cercle de charismatique, on va dire. Je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise. C'est bruyant, c'est brouillon, ça part dans tous les sens, ça gesticule. Je suis pas à l'aise. Et la tendance serait grande pour moi de dire oh, ils sont nuls. C'est mal pensé, c'est mal ficelé leur truc, les textes, c'est n'importe quoi. Vous voyez, ce serait facile pour moi d'arriver à ce jugement et de dire « Ouh là là hein? !» Et j'aurais tort. Et j'aurais tort. Non pas parce que forcément c'est bien, mais parce que je ne peux pas me permettre de juger. C'est que le Seigneur doit juger ça. Je veux dire, il a donné aux uns d'être comme ça, moi il m'a donné comme ça. Bon, je ne vais pas faire comme eux, parce que ça ne serait pas moi, mais je n'ai pas le droit de juger. Hein? Sinon, je pourrais atterrir dans la position de Judas, voyez-vous, qui dit, ça c'est inconcevable. Hein? Eh bien, il avait tout faux. Parce que Jésus a regardé au cœur, et il a vu ce qu'il a vu, hein? Et que cette femme lui était précieuse. Avec ses manières peut-être un peu exorbitante, avec sa façon de procéder qui pouvait choquer certains. Eh bien, tant pis. Hein, elle avait raison. Et donc, je ne peux pas me permettre de juger ça. Peut-être leur enthousiasme un peu fou exprime simplement un cœur qui déborde pour Dieu. Et peut-être ma cérébralité en retenue traduit au fond un cœur qui est froid. C'est possible. Je ne dis pas que c'est nécessairement ça, mais ça pourrait être ça. Et donc, ce n'est pas à moi de juger, c'est au Seigneur de juger. Et vous le savez, il reviendra pour juger, vous et moi. Nous serons jugés et nous saurons ce qu'il en était à ses yeux. Et c'est ça qui